Petit C, Myriam, c'est une voyante, une gardienne de la vie, une gardienne de la foi. Alors là, je vais me mettre sur le commentaire sur le moment où, dans les premiers chapitres, où Myriam va accompagner Moïse de vue, accompagner le petit panier qui vogue sur les flots. Alors, la sœur de l'enfant se posta à distance. Là, c'est un commentaire juif. Pourquoi Myriam s'est-elle tenue à distance? Rabbi Amram, au nom de Rab, a dit, parce que Myriam vit par prophétie. Ma mère doit donner naissance à un enfant qui sauvera Israël. Elle avait eu cette prophétie-là. Et justement, au chapitre 15, au moment de la traversée de la mer Rouge, juste après, il est dit qu'on l'appelle Myriam, sœur d'Aaron. Et alors, on ne l'appelle pas sœur de Moïse, on l'appelle sœur d'Aaron. Ce que la tradition juive voit comme un signe de sa prophétie qui précède la naissance de Moïse, en fait. Myriam, sœur d'Aaron, a vu que de sa famille naîtrait quelqu'un qui sortirait le peuple d'Israël d'Égypte, et donc, il fallait que, à un moment, elle se tienne à distance pour vérifier l'accomplissement de sa prophétie, en fait. Voilà. Donc, effectivement, la tradition juive raconte qu'elle va supplier son père Amram, qui est le leader de sa génération, de lever le décret qu'il avait instauré, que les juifs ne s'approchent plus de leurs femmes de peur d'engendrer un garçon. Parce que Pharaon avait dit, ben, on va tuer tous les garçons. Et donc, Amram, il avait dit, d'après la tradition juive, à leurs femmes, enfin, aux hommes, n'approchez plus de votre femme pour l'instant, le temps que ça se tasse. Et alors, Myriam va le voir et lui fait remarquer que son attitude est encore plus meurtrière que celle du souverain d'Égypte, puisqu'il refuse même d'engendrer des filles. Je trouve que c'est très, c'est très concret. En gros, si tu interdis à tous les hommes de s'approcher de leurs femmes, ils pourront plus avoir de garçons, d'accord, donc ils seront plus tués par Pharaon, mais ils pourront plus avoir de filles non plus. Donc en fait, tu es plus infanticide que Pharaon lui-même, l'impie. Voilà. Je trouve que c'est très concret et très beau, parce que elle avance pas à pas, et voilà, je trouve ça très beau. Donc par là, elle signifie aussi que l'espérance et la confiance du peuple juif doivent transcender les lois antisémites. Elle a une confiance inébranlable en la vie. C'est un bel exemple. Et à la naissance de Moïse, la tradition raconte que le père de Myriam se lève et l'embrasse sur la tête. « Ma fille, ta prophétie s'est accomplie. » Donc on imagine peut-être une femme qui va voir des choses et qui va tenir tête à tout son entourage sur certains sujets, qui va avoir peut-être des petites consolations, comme avec ce père qui l'embrasse sur la tête, quoi. Et maintenant qu'elle le mettait à l'eau, c'est sa mère qui la frappa sur la tête en disant « Eh bien ma fille, et ta prophétie ?» Donc là, c'est Yokeved qui était envahi d'un doute, et on imagine bien pour une mère l'arrachement total de mettre son enfant dans un... Parce qu'en plus, le Nil, c'est quasiment la Loire. Enfin, c'est pas la Chésine ou le Sens, quoi. C'est l'énorme... Enfin, ça devait être vraiment stressant. Et c'est pourquoi le texte dit « La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qu'il adviendrait de sa prophétie. Ce n'était pas pour voir si, mais comment sa prophétie se réaliserait. » Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce troisième trait, c'est d'être, pour une femme, une voyante, une gardienne de la vie, une gardienne de la foi, parce que quand on s'appuie sur le Seigneur, il va nous faire défendre la vie, en fait, voilà, c'est... Et défendre la foi, parce qu'elle a tenu tête à son père d'abord et à sa mère ensuite, quoi. Elle a été le pilier de la famille, en fait. Alors que ses parents eux-mêmes étaient plus âgés qu'elle, mais elle a eu quelque chose qui a vraiment aidé toute la communauté, surtout si ses parents étaient influents dans la communauté. Quatrièmement, la grâce de louange. Donc dans Exode 15, on a la traversée de la mer Rouge, Dieu qui dit à Moïse, vas-y, avec ton bâton, tu vas refermer la mer. Et puis, l'armée de Pharaon qui se fait balayer par les flots. Et il se forme deux groupes. Un groupe qui prononce un cantique, chantez au Seigneur, cheval et cavalier, à la mer, il les a. Voilà, c'est les hommes. Ça prend ça, hein, dans ma Bible, je dirais 20 cm, une colonne de 20 cm, c'est un cantique assez long. Et puis après, il y a Myriam, avec les danses et les tambourins, en tenant un cantique avec les femmes. Et il y a un petit cantique plus court, voilà. Donc on voit une séparation, comme s'il y avait la manière un peu masculine de louer, et la manière féminine. Et on voit que la manière masculine prend plus de place. La manière féminine est moins visible, en fait. Voilà. Donc on peut déjà souligner une capacité d'entraînement et d'émerveillement. C'est déjà ce qu'on peut dire juste en lisant le texte, puisqu'on dit Myriam, avec les tambourins et les danses, entraîna les autres femmes, etc. Capacité d'entraînement et d'émerveillement. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense. Et dans le Targum, donc dans le, le texte revisité par la tradition juive. Voilà ce qui est dit. Donc le Targum, c'est le texte biblique enrichi de gloses, hein, c'est ça. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin et toutes les femmes sortirent derrière elle, dansant au son des tambourins, faisant des rondes au son des instruments. Et Myriam leur répondait, louons et glorifions devant Yahvé qui est exalté au-dessus des orgueilleux et qui est élevé au-dessus de ceux qui s'élèvent. Leurs chevaux et leurs cavaliers, parce qu'ils se sont enorgueillis, ont poursuivi le peuple des enfants d'Israël. Il les a jetés et engloutis dans la mer des roseaux. Alors, en lisant ce texte, comparant les deux, en fait, le contenu des deux, il y a une chose qui apparaît, c'est le fait de souligner l'orgueil qui est mis à bas par la faiblesse. Et ça, c'est une constante. On le retrouve dans le Cantique d'Anne, et on le retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. C'est souvent des femmes qui parlent, dans le Cantique de Judith aussi, on le retrouve. Et on le retrouve dans le Magnificat, voilà, et il disperse les puissants, etc. Et comme Dieu se complaît, il a dit, ma femme t'écrasera du talon. C'est un peu la personne qui n'est pas dotée de la force apparente. Et on peut imaginer peut-être que le serpent s'est attaqué à la femme parce qu'il a dit, bah, elle a l'air plus fébrile, celle-là est plus chétive, je vais m'attaquer à elle. Il fait toujours ça avec nous. Il nous attaque sur notre point faible. Bah, Dieu dit, bah, je vais passer par la femme qui a l'air plus fragile et tu vas voir, je vais t'en coller une. Avec la femme comme à la pointe de mon épée, c'est elle qui va t'écrabouiller, quoi. Et on a ce commentaire, d'où avait-elle des tambourins, elle qui, comme les autres, ont dû quitter l'Égypte dans la précipitation. Moi, j'ai trouvé ça renversant. Voilà. Les femmes justes de cette génération assuraient que le Saint béni soit-il allait... Alors, les Juifs, quand ils disent le Saint béni soit-il, ils font un geste. Alors, nous, on pourrait faire le signe de croix à chaque fois qu'on parle de Dieu. Le Saint béni soit-il allait accomplir des miracles, avait emporté d'Égypte des tambourins, énonce le Midrash. Cette confiance... confine à la prophétie, puisque ce qu'une simple servante a vu à la mer Rouge, les prophètes ne l'ont pas vu, affirme encore le Midrash. Et le Talmud, d'insister, c'est par le mérite de ces femmes vertueuses que nos ancêtres furent délivrés d'Égypte. C'est-à-dire que la tradition juive insiste sur, en gros, la délivrance d'Égypte, c'est pas d'abord Moïse, c'est la prière des femmes qui ont soutenu leur famille et qui se manifeste dans Myriam qui vient soutenir son père, est une colonne pour son père et sa mère, quoi. Voilà. Et il est dit, il y a des voix, des tambourins et des danses, et la tradition juive dit que c'est une joie plus complète que de simples voix des hommes, quoi, qui vont juste dire, ah cool, merci Seigneur, enfin, j'exagère un peu, mais là, dans ces voix et ces tambourins, Myriam et son cœur apportent au cantique de la mer l'intensité du sentiment et de la profondeur de la foi. C'est deux choses qu'on trouve beaucoup moins dans le premier cantique. Le sentiment, c'est-à-dire être capable de parler avec ses tripes, d'avoir une prière qui a une certaine perfection, parce que on le dit avec toute la joie qu'on a dans le cœur, ou toute la peine, ou toute la... Vous voyez, on retrouve la pleureuse de tout à l'heure, hein. C'est pas la prière, Seigneur, s'il te plaît, voilà, et puis maintenant je passe à autre chose. C'est plutôt, Seigneur, je vais faire en sorte d'avoir une prière qui fasse naître les larmes chez moi, ou d'une louange qui soit éclatante, et je me contente pas de louer, je fais avec les tambourins, les danses, tout ce que le Seigneur a donné, m'a donné, et d'ailleurs je les ai mis dans mes bagages alors que je devais partir en trombe. Et donc, leur expérience de l'amertume de l'exil avait été beaucoup plus intense que celle des hommes. Voilà ce que dit la tradition juive. Et pourtant, leur foi avait été plus forte et plus durable. Et leur aspiration à la rédemption avait été plus poignante. Voilà.